enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
L'évangile, nous dit l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous croyons que ce soir encore, au travers de l'évangile, de cette bonne nouvelle, la puissance de Dieu veut se révéler à celui qui veut bien le recevoir. Luc chapitre 15. Tout le chapitre de Luc chapitre 15, pour ceux qui connaissent la Bible et qui ont l'habitude de lire, disent Luc 15, on connaît, ce sont les paraboles des perdus. Dans Luc 15, tout est perdu. La brebis est perdue, la drachme est perdue, et le fils est perdu. Non, c'est pas ça? Ça commence par la parabole de la brebis perdue. Jésus nous dit, c'était une brebis qui était perdue, mais le bon berger est allé chercher la brebis perdue. Et qu'il est bon de savoir que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et peut-être quelqu'un dira, oh, peut-être pas quelqu'un comme moi. Jésus viendra pas chercher comme moi. Regardez dans un autre passage, dans le même évangile de Luc, il est dit que Jésus s'est retrouvé dans la maison de Zachée. Zachée, qui était là le chef des publicains. S'il fallait parier sur celui là où irait passer Jésus, on aurait dit partout sauf chez Zachée. Ouf, vous arrivez à prononcer ça, vous? Sauf chez Zachée. Sauf chez Zachée. Vous pourrez vous entraîner, cours, cours d'homilétique numéro 1. En tout cas, Zachée était connu pour être, vraiment c'était le chef des publicains, c'est un collaborateur. Mais Jésus a mangé dans sa maison. Et il dit, le salut est entré dans cette maison. Et c'est dans ce contexte que Jésus dit qu'il est venu chercher, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Même un gars comme Zachée. Et laissez-moi vous dire que Jésus est venu vous chercher, vous aussi, et vous sauver, vous aussi, qui êtes perdus. Mais j'aimerais qu'on regarde particulièrement la fin de l'histoire, donc on est dans la brebis perdue, au verset 6, quand il nous dit qu'une fois que le berger a trouvé sa brebis, il se réjouit. Enfin, j'ai retrouvé ma brebis, et il y a de la joie. De retour à la maison, verset 6, 15-6, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus dit, dans le ciel, je vous le dis, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent. Est-ce qu'on arrive à réaliser ce soir que dans le ciel, il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de la réjouissance? La même manière que ce berger appelle ses amis, « Réjouissez-vous avec moi !» On peut entendre la voix de Dieu nous dire, « Réjouissez-vous avec moi !» Est-ce que des fois le ciel vous appelle, « Hé, réjouis-toi avec moi !» Parce que un pécheur s'est repenti. Et là vous allez dire, « Ah non, non, mais là ça va pas !» On parle de joie, on parle de réjouissance, on parle de fête, et déjà vous utilisez deux gros mots. Des mots que le monde aujourd'hui, que la société, que le monde religieux n'aime pas entendre. Le mot pécheur et le mot repentance. Quelqu'un dira, on peut faire la fête, on peut parler de joie, on peut parler de réjouissance, de célébration, à condition qu'on ne parle pas de pécheur et de péché, et qu'on ne parle pas de repentance, parce que ça vient gâcher la fête. Non ? On est dans un monde qui veut se réjouir, qui veut faire la fête, mais notez bien que dans le ciel, quand on fait la fête, c'est pas pour souffler les bougies d'un anniversaire, parce que dans l'éternité, il en faudra des bougies. Hein. Non ? Quand on fait la fête dans le ciel, c'est parce qu'un pécheur s'est repenti. C'est ça l'objet, le sujet de joie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parce qu'un pécheur s'est repenti. Et si on veut refuser de notre vocabulaire le mot pécheur et péché, et si on veut refuser de notre vocabulaire le mot repentance, on ne peut plus faire la fête avec Dieu. On ne peut plus avoir cette même joie que le ciel a, parce que le ciel se réjouit quand un pécheur se repent. Il faut peut-être définir ces mots, parce que c'est des mots qui font peur. C'est quoi un pécheur? Quelqu'un dira, un pécheur, c'est celui qui pêche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Oui? Eh bien non, c'est pas ça. C'est justement parce qu'il est pécheur qu'il pêche. Qu'est-ce qu'il dit là? Bon, ce n'est pas, on n'est pas pécheur parce qu'on pêche, mais on pêche parce qu'on est pécheur. Allô? Je ne veux pas vous embrouiller là et vous amener à dire, attendez, là c'est compliqué. Je veux dire par là que ce n'est pas toute la somme de nos mauvaises actions qui font de nous des pécheurs. Et dire, je suis plus grand pécheur parce que j'ai fait plus de mauvaises actions. Et quelqu'un dira, moi, je ne suis pas si pécheur que ça, parce que je n'ai pas fait les 400 coups, parce que je n'ai pas fait tant de choses graves. Je ne suis jamais allé en prison, je n'ai jamais consommé, jamais ceci, jamais cela. Finalement, moi, je ne suis pas un si grand pécheur que cela. Voyez-vous, le pécheur, c'est celui qui est en dehors des voies de Dieu. Si on veut reprendre une définition du mot péché à partir de l'hébreu, ça veut dire tout simplement manquer le but. Le pécheur, c'est celui qui manque l'objectif de Dieu pour sa vie. Si on veut reprendre cette expression-là, le pécheur, c'est celui qui tourne le dos à Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Jésus dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses. Pécher, c'est offenser Dieu. On ne parle pas là de dire des menteries, de voler, de faire toutes sortes de grosses affaires. On dit simplement offenser Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut offenser Dieu? On offense Dieu en refusant Jésus. Et s'il fallait faire une démonstration pour ceux qui ne sont pas convaincus ce soir, souvenez-vous de cette parole de Jésus qui dit « Le Saint-Esprit convaincra le monde ». En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et de quelle manière le Saint-Esprit convaincra-t-il le monde en ce qui concerne le péché? Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne vous souvenez pas de ce passage dans l'évangile de Jean? Jésus dit, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et le Saint-Esprit, pour venir convaincre quelqu'un de péché, n'a pas besoin de venir montrer la longue liste de toutes les mauvaises actions que l'on a pu faire. Quelqu'un dira, moi, ma liste, elle n'est pas bien longue. Peut-être que si on réfléchit bien, on va rajouter quelques bouts sur votre liste. Mais le péché, c'est parce qu'ils ne croient pas en moi. Parce qu'ils offensent Dieu en refusant le nom de Jésus. Le pécheur, c'est celui qui tourne le dos à Dieu. Celui qui a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Quand un pécheur se repent, c'est un pécheur qui change de direction, de cap. C'est une conversion, c'est un demi-tour. Et il dit, avant, je marchais dans le chemin qui m'éloignait de Dieu. Maintenant, je veux me rapprocher de Dieu. Avant, je tournais le dos à Dieu. Maintenant, je veux le regarder et vivre pour lui, avec lui. Et comprenez qu'il y a dans le ciel de la joie pour un pécheur, quelqu'un qui était loin de Dieu, qui se repent, qui change de voie, qui change de conduite, qui change de chemin et qui revient à Dieu. Donc, dans Luc 15, la première parabole nous parle de cette brebis perdue et Jésus nous dit, dans le ciel, de la même manière, il y aura de la joie. La deuxième parabole que Jésus emploie dans Luc 15, c'est celle de la drachme perdue. C'est une pièce qui a été perdue. Ou quelle femme, regardez verset 8, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Est-ce que vous voyez là encore le même refrain? Ce refrain, c'est « Réjouissez-vous avec moi, car la drachme que j'ai perdue a été retrouvée. » Et dans ce même refrain, il y a de la même manière dans le ciel, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. On ne va pas rentrer sur les détails de la drachme de cette femme. Quelqu'un dira, ben, si elle en avait 10, elle en perd une, il lui en reste 9. Comprenez que c'était un collier de mariage avec ses 10 pièces et se marier. Imaginez un collier de mariage avec une pièce en moins, ça ne marche plus là. Ça gâche la fête. Et elle est importante cette pièce. Et c'est son avenir, c'est son mariage qui est en cause. Et elle dit, je ne vais pas rater mon mariage à cause d'une pièce perdue qui traîne sous un lit. Elle met la maison, elle cherche, elle balaye la maison dans tous les sens jusqu'à trouver cette drachme. Mais de la même manière que le berger va jusqu'à chercher sa brebis, ça se termine avec cette phrase, « Réjouissez-vous avec moi ». Et le ciel bien souvent veut nous dire, « Réjouissez-vous avec moi ». Pour cette brebis qui était perdue et qui est retrouvée, pour cette drachme qui était perdue et qui est retrouvée, pour ce pécheur qui s'est repenti. Et on va maintenant au verset 11, à cette parabole qu'on connaît bien, qui est la parabole du fils perdu. Quelqu'un dira, ah, je croyais que c'était la parabole du fils prodigue. Appelez-la comme vous voulez, en tout cas le mot prodigue n'est pas dans le texte. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. C'est donc l'histoire d'un père qui va perdre son fils. Son fils quitte la maison du père avec sa part d'héritage. Et il va prendre un chemin, et comme on l'a lu dans cette histoire que Jésus nous raconte, un chemin de débauche. Il quitte la présence du père. Comprenez que le péché nous éloigne de la présence de Dieu et nous emmène dans un chemin de débauche qui nous fait descendre vers le bas au lieu de nous ramener vers le haut et de nous approcher de Dieu. Ce fils a quitté la maison de son père. Mais il rentre en lui-même. Et alors qu'il réfléchit sur la misère de son âme, alors qu'il réalise qu'il est bien malheureux, il a tout perdu, il ne lui reste plus rien, il se dit au fond de lui-même, dans la maison de mon père, les choses sont différentes. Même un ouvrier est bien traité et ils ont du pain en abondance, alors que moi, ici, je meurs de faim. Il réfléchit et se souvient de la maison du Père. Peut-être que quelqu'un a oublié ce qu'est la maison du Père, la maison de Dieu. Quelqu'un a oublié ce qu'est la communion, la présence de Dieu. Le péché nous a séparés de cette communion avec Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. À cause du péché, il y a eu une séparation d'avec la présence de Dieu et de la communion avec le Père. Mais ce fils se souvient et se rappelle. Et peut-être quelqu'un dira, mais moi je ne peux pas me souvenir, je ne peux pas me rappeler, je ne sais pas ce que c'est moi. Mais la Bible est là pour nous rappeler et nous dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. La volonté de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il se détourne de sa mauvaise voie. La Bible nous montre que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Et que si quelqu'un ce soir vit dans la désolation, la tristesse, l'angoisse et le malheur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et que dans la maison du Père, il y a aujourd'hui encore du pain en abondance. Et que si quelqu'un est affamé, si quelqu'un meurt de faim, et même spirituellement parlant, si quelqu'un est là assoiffé en disant « Il me manque quelque chose », ce qu'il te manque se trouve dans la maison du Père. Pas avec les cochons, pas avec les pourceaux, avec les caroubes, la nourriture des cochons. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la nourriture des cochons. Moi non. Et ça ne me tente pas. Mais lui, il en était rendu à un tel point qu'il voulait manger ce qu'on donnait aux cochons, mais on ne lui en donnait même pas. Il était là dans un tel désespoir, mais il se souvient que dans la maison de son père, il y a du pain en abondance. Quand un pécheur se repent, cet homme réalise qu'il est pécheur. Et il dit, voilà ce que je dirais à mon père, j'ai péché. Je suis pécheur. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et comprenez, quand il dit « j'ai péché », c'est « j'ai quitté ta présence ». Je suis sorti de ta maison. Et il ne dit pas « c'est parce qu'il est sorti de sa présence qu'il est sorti de la maison du Père, qu'il était auprès des prostituées et qu'il était dans cette vie de débauche ». Mais il ne dit pas « je suis pécheur à cause de cette vie de débauche », mais c'est parce que j'ai quitté ta présence que j'en suis arrivé à l'état dans lequel je suis maintenant. Il reconnaît qu'il est pécheur et il se repent, c'est-à-dire qu'il revient, il change de voie et il revient vers le Père avec cette phrase « Je ne suis pas digne, je ne le mérite pas, Et de la même manière, aujourd'hui, on peut avoir ce sentiment, et il est normal et il est juste, de dire, mais je ne suis pas digne que Dieu me pardonne. Je ne le mérite pas. Et personne ne le mérite. Mais Dieu nous aime. Et comme le père de cette parabole qui aime son fils, ne va pas dire, c'est vrai mon fils, tu ne le mérites pas, retourne d'où tu viens. Il va dire, mais je t'aime. Et il le serre dans ses bras. Et il y a de la joie. Et je mets en connexion cette parabole avec les deux autres de tout à l'heure, où il était dit, réjouissez-vous avec moi. Le berger dit, il appelle ses amis et il dit, réjouissez-vous avec moi. La femme appelle ses voisines et leur dit, réjouissez-vous avec moi. Et le père de cette parabole, de la même manière, dit, réjouissons-nous. Et ils commencèrent à se réjouir. Il y a donc là, au travers de ces trois paraboles, un appel à la réjouissance. Parce qu'un pécheur s'est repenti, parce qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce que le chemin sur lequel il était le conduisait à la mort, mais que maintenant il est revenu sur le chemin qui le conduit à la vie. Mais dans cette parabole, il y a une épilogue. Allô? Une épilogue, c'est ça? Alors, je cherche mes références. L'épilogue, on va mettre ça avec un L apostrophe. Dans la fin de l'histoire, il y a là un petit rajout à l'histoire. C'est l'histoire de ce frère aîné qui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh, il est en train de faire quoi, lui? Il était en train de travailler. Le fils aîné était dans les champs. Comprenez que quand il était dans les champs, c'est pas il était dans le champ, hein. Il était dans les champs en train de travailler. Lui, il a travaillé fort toute la journée. Il a travaillé dur pour la maison de son père. Et voilà qu'il arrive et dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et on lui dit, mais on fait la fête. On se réjouit. Parce que ton frère est revenu et ton père nous invite à nous réjouir. Viens te réjouir avec nous. Il dit, moi, jamais. Je ne rentre pas, je ne fais pas la fête quand même. Ça n'a pas d'allure de faire la fête pour un quinquin qui est parti, qui a dépensé tout son argent, qui était dans la débauche avec les prostituées. Et c'est le père qui sort de la maison et qui va chercher son fils aîné. Et qui va lui dire, viens te réjouir avec nous. Et ce fils aîné refuse d'aller se réjouir avec le Père. Si Jésus nous raconte cette parabole, c'est pour nous instruire et nous enseigner. Parce que elle va droit là où il y a souvent un problème. Le Père nous invite à nous réjouir pour un pécheur qui est revenu à la vie. Mais le fils aîné, lui, ne voit pas les choses de la même manière. Le fils aîné, lui, déjà, dit, mais comment, après tout ce qu'il a fait, tu peux lui pardonner? Après tout ce qu'il a fait, tu vas l'accueillir comme si de rien n'était? Après tout ce qu'il a fait, tu vas faire une grande fête comme ça pour lui? Mais on devrait le renvoyer d'où il vient et qu'il paye pour ce qu'il a fait. Mais Dieu n'agit pas ainsi avec nous. Les hommes sont durs et méchants. Mais Dieu, lui, nous aime d'un amour incomparable. Et heureusement que c'est Dieu qui est celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort, je peux dire ainsi. C'est lui qui a le pouvoir du pardon, parce que si c'était un homme, personne ne serait pardonné, mes amis. Mais Dieu nous aime. Et celui qui revient à lui, il l'accepte. Et il y a de la joie dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour incroyable. Dieu a tant aimé le monde. Et si le Père fait la fête et sait, à apparemment une très grande fête, c'est parce que vraiment dans son cœur, c'est vrai, il se réjouit, il est heureux, parce que ce fils était perdu et que maintenant il revient à la vie. Mais le fils aîné voit les choses différemment. Dites-moi, quand quelqu'un vous fait du mal, quand quelqu'un vous a fait du tort, quand quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, et puis qu'il arrive dans la maison du Père, et que le Père fait la fête pour lui, est-ce que vous allez avoir l'attitude du fils aîné? Non, Seigneur, comment ça, lui qui va être sauvé, après tout le mal qu'il m'a fait? Allô? C'est-à-dire que ça tombe bien, personne ne vous a fait de mal. Mais je pense à ces histoires, et il y a de belles histoires de juifs qui ont été persécutés dans des camps de concentration, qui se souviennent du visage de leur bourreau, et qui quelques années plus tard, certains, je ne dis pas que ça se passait comme ça pour tout le monde, mais il y a quelques témoignages de quelques personnes, on pourrait vous les retrouver si vous voulez, qui disent, mais se retrouver dans une église, on avait donné notre vie à Jésus, on avait connu la paix, le pardon, près de Dieu, l'amour, la consolation, la restauration. Puis on a retrouvé notre bourreau qui s'était repenti. Comment toi, Seigneur, tu peux lui pardonner après tout le mal qu'il m'a fait? Et comprenez qu'il y a ça actuellement qui se passe au Rwanda aussi, dans bien des églises. Il y a un réveil au Rwanda, il y a des choses extraordinaires qui se passent au Rwanda, où on se retrouve dans certaines églises où c'est lui qui a tué ma famille. Mais on est frères. On est dans la même église. Et vous comprenez que nous, on ne vit pas ce genre d'affaires au Québec. Non? Personne dans l'église qui vous a fait ça, qui a tué votre famille à coups de machette ou qui a mis votre famille dans un camp de concentration? Non. Mais des fois, on a une attitude qui ressemble au frère aîné de la parabole. Dieu nous invite à nous réjouir et nous, on trouve toutes sortes d'affaires pour ne pas nous réjouir. Pour chercher la petite bête, mais on ne dit pas ça en québécois, pour chercher la petite affaire. La bibitte, ouais, chercher la bibitte, qui vient gâcher la joie. Qui va dire, comment est-ce que je peux me réjouir? Quelqu'un vient dans l'église, on va dire, oh, c'est qui lui? Comment il est habillé? Oh, comment? Hey, un pécheur qui se repent. Gloire à Dieu. Et le ciel nous invite. Il y a de la joie dans le ciel. Et le ciel nous invite à nous réjouir. Dites-moi. Moi, quand le ciel m'invite à me réjouir, j'y vais. Quand on vous invite à une fête, là, vous refusez les fêtes? Eh, on m'invite à une fête, ça va être formidable. Puis c'est une fête, là. C'est se réjouir avec les anges. C'est se réjouir avec Dieu. Mais quelle joie dans le cœur, quelle sensation que d'être là en fête avec Dieu. On se réjouit avec le Père. Parce que celui-ci était mort et qu'il est revenu à la vie. Mais comment est-ce qu'on pourrait trouver des bibites, des affaires pour ne pas se réjouir avec le Père? Parce que, ah oui, mais quand même, il y a quelques années, lui, il m'a dit ça. Il y a quelques années, elle m'a fait ça. Écoutez, arrêtons avec ces affaires. Le fils aîné est malheureux. Au lieu de se réjouir avec tout le monde, lui, il est en colère. Et là, il y a un problème. Et il va encore, après, justifier sa colère, en disant, tu fais une grande fête pour lui, tu vas jusqu'à tuer le veau gras. Eh, on doit manger à plusieurs sur un veau quand même, hein? Non? On a fait une grande fête là, hein? C'est pas un poulet, hein? C'est pas poulet Saint-Hubert, là, c'est un veau. Un veau, vous invitez combien de personnes pour manger un veau? Mais le gras, hein? Pas... On fait toute une fête. Et puis il va dire, moi, tu m'as jamais donné un chevreau, c'est un peu plus petit qu'un veau, hein? Jamais donné
un chevreau pour faire la fête, une petite chèvre, là, pour faire la fête avec mes amis. Et il y a comme une frustration, une jalousie. Lui, tu lui donnes ça, et moi, tu ne m'as jamais rien donné. J'ai jamais fait la fête, et pour lui, tu fais la fête. Et pour moi, il n'y a jamais eu de sujet de fête. Et le père va lui répondre, mais tout ce qui est à moi est à toi. C'est pas ça qu'il dit le père? Il dit, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. En d'autres termes, le chevreau, tu pouvais le prendre. Comprenez que, des fois, on ne veut pas se réjouir pour un pécheur qui se repent. Et on a du mal à comprendre que quelqu'un peut être là, mais heureux, parce qu'il était perdu et que maintenant il est sauvé et venir nous réjouir avec lui. Quelqu'un dira, mais moi, j'ai jamais eu cette joie. Mais cette joie, elle est là pour toi. Tout ce qui est à Dieu est à toi. Et ne dis pas, mais moi, Dieu m'a jamais rien donné pour me réjouir. Ah, oh, lui, il a été guéri, mais moi, j'ai rien eu. Ah, oh, ben lui, il a été béni, mais moi, j'ai rien eu. Ah, puis ce matin, on tombe tous ces témoignages, ça m'a mis le moral à zéro. Tout le monde est béni, mais moi, Dieu m'a rien donné. Est-ce que c'est ça que vous avez dit ce matin? C'est vrai? Dieu le sait. Et moi, j'ai rien eu. Et le Père répond au Fils, mais ce que j'ai, c'est pour toi. Et c'est à toi. Comprenez que il y a deux choses là, il y a deux leçons dans cette histoire. La première, c'est donc de se réjouir. Quand le Père nous invite à se réjouir, c'est lui qui pardonne. C'est lui le Père. C'est pas nous à lui dire, faut pas pardonner. Il pardonne. Même si nous, on ne l'aurait pas fait, lui, il le fait. Et il nous invite à nous réjouir avec lui, qu'on puisse se réjouir simplement avec lui. Et qu'il n'y ait pas ce syndrome de la comparaison ou de la frustration, en disant, lui, il a un veau, moi, j'ai jamais eu de chevreau. Parce que ce que lui a eu, s'il a un veau, c'est le Père qui se réjouit. Il ne le donne pas au Fils, il se réjouit de ce que le Fils est là et il lui montre tout l'amour qu'il a pour lui. Mais il aime le Fils aîné de la même manière. Est-ce que ce Père préférait, peut-être quelqu'un dira, ah ben ça veut certainement dire qu'il préférait le Fils cadet au Fils aîné. Non. Enfin, moi je ne le crois pas. Il aimait le Fils aîné de la même manière. Mais le Fils aîné a une vision du Père qui est différente. Il dit, moi, je travaille fort toute la journée et je n'ai jamais le droit de me réjouir. Ça, c'est malheureusement l'image qu'ont plusieurs personnes de la religion. En disant, la religion, c'est travailler fort, être au champ, travailler pour la maison de Dieu, travailler pour le service de Dieu, se sacrifier, faire des bonnes œuvres, se donner pour les autres et jamais se réjouir. Et Dieu dit, le Père dit à ce fils, mais il y a tout ce que j'ai est à toi, et il y a tout ce qu'il faut auprès de moi pour que tu te réjouisses aussi avec tes amis. Comprenez que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit austère, triste, malheureux. Je vais à l'église. Vous êtes venu comme ça ce soir à l'église? Oh, je vais à l'église ce dimanche soir. Si je n'y vais pas, ils vont m'appeler en me demandant pourquoi je ne suis pas allé. C'est comme ça que vous allez à l'église?
Non.
Et des fois, on a une drôle de conception, mais le fils aîné, c'est un peu ça. Il va travailler au champ, mais il n'y a pas son cœur, il n'y a pas de joie. Et c'est triste d'être un chrétien sans joie. Il y a de la joie auprès de Dieu. Ce matin, on a fait la fête. Et dans le ciel, mais si on pouvait entendre la fête qu'il y a au ciel, on dirait, faites-moi de bruit un peu. Il y a de la fête dans le ciel. Et on est invité à cette fête pour un seul pécheur qui se repent. Et de la même manière, Dieu veut nous dire, mais il y a tout ce qu'il faut auprès de moi pour te réjouir, pour être dans la joie. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit « Soyez toujours joyeux » ? La joie, c'est pas donné à certains puis pas à d'autres. La joie, c'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous soyons heureux, que nous soyons joyeux. Et si quelqu'un dit, mais moi auprès de Dieu, j'ai pas de joie. Écoutez, moi le Dieu que je connais, c'est celui qui donne de la joie. Il est celui qui console. Il est celui qui relève, qui met la paix, qui restaure. Et il ne veut pas que notre vie chrétienne soit une vie triste, fade, austère, malheureuse, en disant « je suis chrétien », mais qu'on puisse être heureux de servir l'Éternel et de dire « moi, c'est mon Père ». Et quand le ciel nous invite à nous réjouir pour un seul pécheur qui se repent, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, toute cette joie qu'il y a dans le ciel? Si on réalise la grandeur de la joie qu'il y a dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, cette joie, on est invité à la partager, puis on va la rechercher, puis on va essayer de conduire d'autres pécheurs à la repentance et de dire, Seigneur, il y a tellement de joie dans le ciel, moi je veux aussi te réjouir, je veux te faire plaisir. Si vous voulez réjouir le ciel, c'est certes par votre vie, par vos paroles, en adorant Dieu, oui, là vous allez réjouir Dieu, en le servant, oui, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Oui, on peut réjouir le ciel de différentes manières, différentes choses que l'on peut vivre et faire. Mais si vous voulez vraiment apporter une fête au ciel, c'est participer au salut d'un perdu. Et de dire, si je peux être l'élément qui va permettre à quelqu'un de pécheur de se repentir, à quelqu'un de perdu de revenir dans la maison de Dieu, je pourrais dire, hey, il y a une fête au ciel et j'y suis pour quelque chose. Et c'est moi qui ai pu amener cette fête au ciel, pas faire grand chose, mais un petit quelque chose, pour dire, Seigneur, là, ça me fait plaisir de voir toute la joie, de savoir que j'ai été quelque part en pour quelque chose là-dedans. Un petit peu comme les entremetteurs et les entremetteuses. Il y en a là au Québec. Ceux qui font les mariages des autres. Vous savez, je vais présenter une jeune fille, je vais te présenter un jeune homme. Hein? Ah, c'est quelqu'un de bien pour toi. Il y en a qui sont spécialistes là-dedans, il y en a qui feraient mieux de se mêler de leurs affaires. Ça, c'est... Mais quand quelqu'un dit, hey, regardez le beau couple là, on est à un mariage, c'est un beau couple, et dire que c'est moi qui les ai amenés à ce qu'ils se rencontrent. Non, ça ne vous est pas arrivé? Dire, ah, c'est un beau couple, et dire, c'est moi qui ai amené ma sœur au Québec. Ah, non, c'est un beau couple. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas ce que ça se passe. Dire que c'est un beau couple, et j'y suis quelque part pour quelque chose. Et quelque part, au niveau du salut d'un perdu, qu'on puisse dire, il y a de la joie, il y a de la fête. Et au départ, j'y étais quelque part pour quelque chose. Le ciel nous invite à nous réjouir. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Qu'on puisse le comprendre ce soir. Et si vous dites, mais moi, je suis encore loin de la maison du Père. Le Père vous attend de la même manière qu'il attend ce Fils. Et il dit, reviens dans ma maison. Il y a une place pour toi encore. Pas une place comme serviteur. Comme ouvrier, c'est ce qu'il voulait, le Fils, revenir comme ouvrier, en disant même un ouvrier est bien traité, mais il est revenu comme Fils. Et le Père le reçoit comme son Fils qui était mort et qui maintenant est vivant. Et qu'on puisse réfléchir à l'attitude du frère aîné, et de dire que jamais nous ne ressemblons au frère aîné, à nous laisser voler la joie par toutes sortes d'affaires, à nous focaliser sur toutes sortes de choses qui contrarient et qui sont mauvaises et qui viennent mettre dans le cœur de la frustration, de l'amertume, quelque chose de mauvais, alors que Dieu veut tout simplement nous inviter à nous réjouir. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Il est bon, Seigneur, d'être dans ta présence ce soir encore et de réaliser que dans le ciel, c'est la fête quand un pécheur se repent. Quand quelqu'un qui est parti de la maison du Père revient. Seigneur, nous voulons nous réjouir avec toi pour ceux qui ce matin se sont repentis,
et qui ont dit « Oui, je veux que Jésus soit mon sauveur. Je veux marcher sur le chemin de la vie. Je veux vivre avec Dieu. Seigneur, il y avait de la joie dans le ciel. Et ça réjouit mon cœur de savoir que dans le ciel, les anges se réjouissent et font la fête. Seigneur, nous aussi, nous nous réjouissons pour tout ce que tu fais, pour les pécheurs qui reviennent à toi, parce que celui-ci est mort et qu'il est revenu à la vie. Oh, que jamais, Seigneur, nous ne ressemblions à ce frère aîné qui est là triste, qui est là fâché, en colère, jaloux, déprimé, qui est là toutes sortes de raisons pour ne pas se réjouir, mais que nous puissions avoir ce cœur simple et nous réjouir avec toi, parce qu'il y a de la joie dans ton cœur quand quelqu'un revient à toi. Seigneur, nous savons qu'auprès de toi, ce n'est pas l'amertume, ce n'est pas la frustration, mais c'est la réjouissance et c'est la joie. Je vais te prier particulièrement ce soir pour ceux qui ont perdu leur joie. Comme pouvait dire David dans ce psaume, « Redonne-moi la joie de mon salut. » Seigneur, je prie pour ceux qui ont perdu leur joie ou qui ne savent plus depuis longtemps ce que c'est que la joie avec Dieu. Seigneur, viens remettre de la joie dans leur cœur. Tu vois ceux qui sont attristés à cause de circonstances de la vie. Seigneur, c'est toi qui consoles. C'est toi qui apaises les douleurs et les tristesses qui sont naturelles et normales. Seigneur, nous voulons regarder à toi, fixer les yeux sur toi. Comme le dit ta parole encore, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Alléluia. Alléluia. On va faire un appel ce soir. Premier appel serait de dire simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'identifie à ce fils et qui dit, moi aussi, je suis parti de la maison du Père et je sens que d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, je me suis éloigné de la volonté de Dieu pour moi, de sa présence, de sa communion. Je réalise que je commence à sentir le cochon, des choses mauvaises. Je veux revenir dans la maison du Père. Et Dieu t'encourage en disant qu'il t'attend, qu'il veut faire la fête parce que tu reviens dans sa maison. Quelqu'un veut revenir dans la maison du Père. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, mais au contraire, pour se réjouir avec le Père qui vous attend les bras grands ouverts. Tu veux revenir dans la maison du Père parce que tu réalises que tu t'es éloigné, que tu es allé trop loin, que tu es sorti de sa maison, de sa présence. Invite à ce soir, c'est un appel solennel, à revenir, ton Père t'attend. Est-ce que quelqu'un a besoin de revenir? Lève simplement la main, on va prier ensemble. Je ne mets personne mal à l'aise. Une main qui s'est levée, on va prier avec. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire ce soir, je veux revenir? Notre main qui s'est levée, oui. Alléluia. Alléluia. J'ai invité Pasteur Romaric à venir prier pour ceux qui ont levé la main. Alléluia, Jésus. Soit tu prends le micro, puis tu le mets là-dessus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.